Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la condition féminine dans le monde, ses avancées, ses paradoxes. L'Atlas mondial des femmes dont il est question aujourd'hui propose un regard scientifique sans complaisance ni parti pris sur un des grands enjeux d'aujourd'hui. Il en ressort que si la progression vers l'égalité entre femmes et hommes est réelle, le chemin est encore long en raison d'avancées souvent inabouties, parfois contradictoires. Ce sont les paradoxes de l'émancipation. Nos invités, Isabelle Attané, démographe à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques et chercheuse associée à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, co-responsable de cet Atlas des Femmes paru aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour.
Et Wilfried Roux, sociologue et co-responsable de l'Atlas et de l'unité de recherche démographie, genre et société de l'INED. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle Attané et Wilfried Roux qui sont donc les deux co-auteurs avec un troisième qui n'a pu se déplacer aujourd'hui, Carole Brugeil, donc pour cet Atlas mondial des femmes. La cause du droit des femmes, elle est relativement récente. 1945, les Nations Unies adoptent cette année-là une charte établissant des principes généraux d'égalité entre les sexes. Depuis, plusieurs conférences internationales ont permis de préciser les objectifs. On retiendra la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 et la 4e Conférence mondiale de Pékin en 1995 dans les Nations Unies célèbre cette année le 20e anniversaire qui prévoyait un programme d'action pour l'autonomisation sociale, économique et politique des femmes. 20 ans après la dernière Conférence mondiale sur les femmes, où en est-on aujourd'hui des inégalités entre hommes et femmes et des inégalités entre femmes elles-mêmes? Est-ce que finalement il y a un pays qui rassemble les conditions d'une égalité parfaite entre les hommes et les femmes, Isabelle Attané?
Je ne connais pas la situation de tous les pays sur le bout du doigt, mais je pense ne pas me tromper beaucoup en disant qu'aucun pays ne rassemble vraiment toutes les conditions d'égalité entre hommes et femmes. Et d'une façon générale, ces inégalités, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles se placent à différents plans, que ce soit dans le domaine de l'emploi, qui est relativement bien connu, que ce soit dans le domaine également de la santé, que ce soit dans le domaine des revenus ou de la répartition des tâches domestiques. Donc il y a tout un tas de sphères. Alors certains pays vont pouvoir accéder à une certaine égalité dans un des domaines, mais rarement, et même je crois jamais dans tous. Et sans doute, à l'échelle mondiale, ce qu'on peut constater comme un signe patent d'inégalité, c'est le fait que sur la planète, on compte aujourd'hui plus d'hommes que de femmes.
Ça, c'est nouveau.
Et ça, c'est un problème nouveau. Voilà, donc il y aurait une tendance à l'échelle mondiale, effectivement. Donc, c'est, disons, le symptôme d'inégalité des chances, en fait, entre hommes et femmes face simplement à la survie et à la possibilité de naître et de vivre.
Alors, je me tourne vers vous, Wilfried Roux. Ce changement de pourcentage et de chiffres plus importants chez les hommes ou chez les femmes, il y avait plus de femmes dans le monde il y a quelques années, ou vous peut-être, Isabelle Attané. On est passé à une majorité d'hommes. Est-ce que ça change quelque chose pour la situation des femmes dans le monde ?
Si vous voulez, ça reste malgré tout dans les hommes sont en surnombre par rapport aux femmes, mais c'est pas non plus, on n'a pas non plus 50-60% d'hommes en plus, hein, donc c'est vraiment sur des petits pourcentages, mais il y a quand même une tendance lourde qui est que on compte des proportions d'hommes qui sont de plus en plus importantes. Alors il faut savoir quand même que cette tendance à l'échelle mondiale, elle est tirée principalement par deux pays qui sont l'Inde et la Chine, dans lesquels ces indicateurs, ces pays comptent de plus en plus d'hommes dans leur population, et comme ils comptent aussi ce sont des pays dont la part dans la population mondiale augmente. Du coup, ça a une influence croissante sur la planète. Il y a certains pays où on a des proportions d'hommes qui sont très élevées. Par exemple, vous prenez certains pays du Moyen-Orient, comme le Qatar, par exemple, où on a 300 hommes pour 100 femmes. Là, c'est pas du tout pour des questions de discrimination des femmes. C'est parce qu'il y a beaucoup d'immigration masculine, en provenance notamment de Pakistan, Bangladesh, etc. Et oui, ça change la donne parce que effectivement, ça a une influence sur les rapports sociaux de sexe. Et dans le cas précis de la Chine, par exemple, qui est vraiment un cas d'école sur cette question, parce que si on a plus d'hommes en Chine que de femmes, c'est parce qu'il y a les petites filles sont soit avortées pendant la grossesse.
C'est la politique de l'enfant unique qui a été décidée et sur laquelle la Chine est en train de revenir.
C'est pas la politique de l'enfant unique, c'est le comportement des parents, hein, la préférence traditionnelle
mais
pour les
filles. Mais induit par cette...
Oui, Parce que, enfin, moi, je suis très partagée là-dessus, parce qu'effectivement, cette politique de l'enfant unique, on l'accuse souvent beaucoup. Alors moi, je suis pas du tout pour cette politique et toute la manière dont elle a été mise en œuvre. Il n'empêche que, je pense que même sans cette politique, la fécondité aurait beaucoup baissé aussi en Chine, parce qu'on a d'autres exemples en Asie, et que cette sélection du sexe, elle aurait quand même eu lieu, même si cette politique n'avait pas été aussi sévère. Donc c'est en ça que je suis partagée. En Chine, oui, ça a cette surreprésentation des hommes commence à avoir des effets, effectivement, sur les femmes, et il semblerait qu'on tende vers davantage ce qu'on appelle une marchandisation des femmes, en fait. C'est-à-dire que finalement, l'accès aux femmes commencerait, hein, j'emploie vraiment le conditionnel, mais à se monnayer. Et du coup, les femmes seraient par exemple plus facilement accessibles, entre guillemets, encore une fois, à des hommes des milieux sociaux plus favorisés.
Ce que vous évoquez sur la Chine est valable pour l'Inde également, Isabelle Attané ?
C'est valable pour l'Inde également.
Wilfried Roux, un commentaire sur les différents points évoqués par Isabelle Attané jusqu'à présent.
Ce qui est marquant, vous l'avez dit en introduction, c'est effectivement le fait que les choses changent. Elles évoluent souvent favorablement, mais pour autant, dans beaucoup de domaines, on observe qu'il y a des verrous qui soit se maintiennent, soit se déplacent. C'est le cas notamment dans la sphère de l'éducation, hein, où globalement, si on regarde les choses dans un temps long, on observe à l'échelon de la planète des améliorations dans l'accès à l'éducation, une convergence relative des parcours des filles et des garçons à l'école. Pour autant, il y a toujours beaucoup d'inégalités sur ce plan, qui se font donc à l'école ou qui se déplacent un petit peu plus tard dans les trajectoires scolaires et professionnelles, ce qui montre bien que c'est un exemple parmi d'autres, mais que les choses évoluent, mais pour autant, on est encore loin d'une égalité.
Alors, éducation, on voit donc un accès plus important, à défaut d'être peut-être plus facile pour les femmes. Passons un petit peu de temps sur la question de la santé. Ce que vous évoquez dans l'Atlas mondial des femmes, c'est un constat sur la dégradation de la santé qui est plus importante pour les femmes. Elle est liée notamment, cette dégradation, aux difficultés rencontrées parfois pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Et finalement, se pose presque cette question, le travail féminin, un affranchissement ou un assujettissement, une libération ou une exploitation? La question paraît un peu forte et un peu crue, mais finalement le problème se pose. Je ne sais pas qui veut répondre, Isabelle Attané.
Je peux me lancer sur la question de la santé. Il faut quand même différencier les différentes étapes de la vie des femmes, hein, parce que les inégalités entre hommes et femmes ne sont pas forcément les mêmes aux différentes étapes de la vie, dans la petite enfance, l'âge adulte et le ce qu'on appelle le troisième ou quatrième âge. Effectivement, il y a une tendance mondiale, hein, qui s'observe pratiquement dans tous les pays du monde et qui est quelque chose de normal, c'est que les femmes ont une durée de vie qui est plus longue que celle des hommes, parce qu'elles ont des comportements qui sont moins à risque, parce que enfin, il y a un certain nombre de facteurs qui font que les femmes ont une mortalité plus faible à tous les âges de la vie. Donc les femmes vivent plus longtemps, par exemple, dans un pays comme la France, mais nos collègues spécialistes du sujet ont mis en évidence le fait que si les femmes vivent plus longtemps, je crois qu'en France c'est autour de 8 ans de plus que les hommes en moyenne, elles vivent aussi plus longtemps en mauvaise santé. C'est-à-dire que parce qu'elles vivent plus vieilles, justement, elles sont plus exposées à un certain nombre de maladies qui peuvent être un peu invalidantes. Et avec en plus une double peine, en fait, pour les femmes qui vieillissent et qui souvent, en plus d'être elles-mêmes âgées, ont aussi à prendre en charge des personnes dépendantes parfois. Donc après, voilà sur la question de la santé. Ensuite, la question de...
Alors, à cela s'ajoute, et ce que vous soulignez beaucoup dans l'Atlas, c'est la question du travail domestique. Ça, c'est important qu'on y passe un certain temps là aussi, qui finalement, c'est la double peine pour les femmes, entre guillemets. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, et vous donnez des camemberts et des graphiques tout à fait intéressants pour évoquer cette question, où l'on voit quand même, globalement, pour le cas de la France, les hommes accordant 8 heures par semaine au travail domestique et à l'attention aux enfants, et les femmes, on en est à plus de 20 heures, Wilfried Roux.
Oui, c'est toujours la sphère domestique est toujours sur ce plan un lieu d'inégalité très forte. Alors certes, les choses évoluent très progressivement, très lentement. On peut pas dire qu'on est dans une stagnation stricte, mais pour autant, l'évolution semble bien mince, surtout comparée à des discours qui aujourd'hui mettent en avant une éventuelle égalité ou des figures comme celle du nouveau père, qui finalement sont peut-être beaucoup plus des figures médiatiques qu'elles ne renvoient à des réalités sociologiques. Puisque, comme vous l'avez rappelé, lorsque on fait des enquêtes qui permettent de mesurer très précisément le temps consacré au travail domestique, qu'il s'agisse du travail domestique renvoyant au foyer ou à la sphère de l'éducation des enfants, on perçoit que les inégalités sont très très fortes. Elles sont d'ailleurs accrues au moment où arrivent des enfants, quand les hommes et les femmes en ont, ou si il peut y avoir eu une période avec des inégalités relativement limitées dans un premier temps dans l'histoire conjugale, l'arrivée d'enfants accroît considérablement les inégalités. Alors à la fois donc dans ce domaine strict du travail domestique, mais aussi plus largement, je rejoins la question que vous posiez tout à l'heure concernant le rapport au travail, concernant les trajectoires professionnelles. C'est-à-dire que les trajectoires professionnelles des femmes continuent d'être beaucoup plus fortement marquées par leurs interactions avec la sphère familiale, beaucoup plus que les hommes, ce qui est une inégalité assez majeure qui demeure.
Parce que, il faut bien le préciser, le temps passé sur les activités domestiques, c'est du temps qui, évidemment, n'est pas passé sur un travail rémunéré, Isabelle Attané. Ce qui confirme là les inégalités, et peut-être on approfondira cette question, notamment l'inégalité sur le plan salarial entre les hommes et les femmes, qui demeure quelque chose de bien prégnant.
Oui, tout à fait. Alors, dans beaucoup de cas quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de femmes cumulent les deux, c'est-à-dire que ça s'ajoute, hein, c'est pas les vases communicants. Mais de fait, effectivement, comme vous le dites, les femmes ont, notamment pour les maternités, des interruptions de carrière que ne connaissent pas les hommes. Les femmes aussi sont plus souvent en temps partiel que les hommes, notamment après l'arrivée des enfants. Et donc, effectivement, ça se traduit par des inégalités de salaire pendant la période d'activité, mais aussi à partir de après la retraite, puisque le montant de la pension de retraite est calculé sur le salaire, enfin les revenus en activité. Et donc, effectivement, il y a ces inégalités de salaire qui sont très, très visibles entre les hommes et les femmes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'immense majorité des pays, c'est-à-dire qu'on constate ça en Europe, mais c'est aussi quelque chose qui est visible sur le continent américain, et visible de manière très net aussi également en Chine, par exemple, et en tout cas dans tous les pays pour lesquels on dispose de données fiables sur ces thèmes.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, ce qu'on évoque là quant au travail domestique, où on aborde la problématique dans les pays du Nord, il va sans dire, et vous le mentionnez dans l'Atlas mondial des femmes, c'est la question, par exemple, pour les femmes africaines, aller chercher de l'eau. C'est une activité qui prend un temps absolument énorme chaque jour. Ça vient s'accumuler par rapport à des tâches qui sont déjà très définies et à faire au quotidien. Donc, finalement, la situation, même si elle est différente, et c'est toujours très difficile et délicat de comparer les situations entre le Nord et le Sud, et très probablement les femmes au Nord sont particulièrement enviées par les femmes du Sud, mais les problématiques différentes restent, avec une donnée qui est valable pour toutes, Isabelle Attané.
Oui, parce qu'effectivement, il y a vraiment des sphères, on disait, la question de la santé, la question de l'emploi, etc., etc. Quel que soit le pays, la société à laquelle on s'intéresse, on constate que ces inégalités existent. Alors, elles sont plus ou moins marquées, mais effectivement, il y a quand même ces constantes, je veux dire, et que si on veut traquer, en fait, les inégalités entre les hommes et les femmes, on sait que si on s'attaque au domaine de l'emploi, si on s'attaque à la question de l'éducation. Voilà, il y a quand même des grands sujets qui malheureusement sont pérennes quand on s'intéresse aux inégalités.
Alors l'accès à l'emploi, vous le dites, il progresse, mais l'emploi des femmes, qui est un fort vecteur d'émancipation, progresse dans le monde, mais il reste cantonné aux postes les moins valorisés, on en a un petit peu parlé, en particulier dans l'agriculture, le commerce et les services, et ne concerne que rarement les postes les plus élevés dans lesquels les décisions sont prises et qui sont aussi les mieux rémunérés. Un commentaire ?
Oui, c'est toujours la sphère professionnelle est toujours un espace de forte ségrégation, on pourrait dire horizontale, puisque comme vous l'avez mentionné, les femmes sont davantage concentrées dans certains secteurs, ce qui en soi révélateur de formes d'injonction et d'assignation à exercer certains types d'activités plus fortes que pour les hommes, même s'il y a aussi évidemment des formes d'assignation qui concernent les hommes, et puis des formes de ségrégation qu'on pourrait dire plus verticales, dans la mesure où dès lors qu'il s'agit de progresser dans les hiérarchies professionnelles, l'accès à certains postes est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Et cela dans toutes les sociétés qui sont abordées dans l'Atlas.
Alors, depuis 1970, et vous le dites, là aussi, les écarts de salaire entre hommes et femmes se sont réduits, mais depuis le milieu des années 90, cette tendance est presque partout ralentie. En 2010, le salaire moyen des femmes européennes est inférieur de 18% à celui des hommes. Alors, ce ne sont pas les inégalités de salaire en tant que telles qui jouent le plus, ce sont surtout les types d'emplois occupés, on en revient à ce qu'on évoquait précédemment, et les niveaux de qualification. C'est un peu le cercle vicieux dont on a du mal à sortir, Isabelle Attané.
Oui, alors les niveaux de qualification, je dirais que c'est peut-être pas forcément en termes de niveau de qualification, mais c'est qu'en fait, il y a une injonction sociale et familiale assez forte à orienter les femmes, en fait, vers des secteurs qui vont pas forcément nécessiter peu de qualifications, mais en tout cas qui vont déboucher sur des métiers qui prétendument sont plus compatibles avec une vie de femme. Et ça, c'est vraiment une image quand même, un cliché très fort, hein. C'est-à-dire que du coup, les femmes s'interdisent effectivement un certain nombre de filières où, dans les représentations collectives, en fait, on considère que ce sont pas des métiers de femmes. À l'inverse d'ailleurs, hein, on considère qu'il y a des métiers qui ne sont pas des métiers d'hommes. Et du coup, effectivement, les femmes vont, ce sont des qualifications qui vont être différentes, mais qui vont les mener vers des métiers qui sont moins bien rémunérés.
Wilfried Roux.
Ce mécanisme est aussi la résultante finalement de formes d'éducation, de socialisation, dans la mesure où finalement, très tôt, on apprend aux filles et aux garçons que l'espace des possibles sur le plan professionnel n'est pas le même. Il est justement fortement sexué et ça va contribuer à baliser finalement fortement les parcours. Et il est par exemple assez révélateur que les garçons et les filles, par exemple, aient, contrairement à un lieu commun, un niveau en mathématiques relativement plus similaire qu'on ne le pense facilement, mais que les femmes se perçoivent à niveau égal des hommes comme étant moins bonnes. Ce qui montre bien qu'il y a une forme d'intériorisation, parfois, de ces clichés dans les deux sens, c'est-à-dire des femmes qui, à un certain niveau de mathématiques, se considèrent comme pas si bonnes que ça, et des hommes qui, eux, vont se considérer comme étant bons en mathématiques. Cela montre qu'il y a des apprentissages de destin professionnel qui se font finalement très tôt.
Isabelle Attané.
Tout à fait, et qui se font très tôt. Et par exemple, il y a une contribution dans l'Atlas qui est consacrée à cette question, qui sont les stéréotypes sexués dans les manuels scolaires. Mmh. Effectivement, on voit que le matériau d'enseignement qui est utilisé dans un pays comme la France, hein, mais dans je connais pas la situation de tous les pays, mais en tout cas tous les pays dans lesquels ça a été étudié, ça a pu être mis en évidence, c'est que en fait déjà dans les manuels scolaires, donc qui sont l'outil, le support éducatif auquel ont accès tous les élèves, déjà ces stéréotypes existent, que ce soit dans les textes, que ce soit dans les illustrations des manuels. Partout, les femmes en général dans les illustrations des manuels, si quelqu'un est en train de faire la cuisine, en général c'est maman, et si quelqu'un est en train de passer la tondeuse dans le jardin, c'est en général papa. Et finalement, les enfants sont très jeunes, que ce soit au sein de la famille ou dans leur sphère de socialisation un peu plus large comme l'école, sont très tôt dans leur vie confrontés justement à ces stéréotypes, et qui fait que en fait tout au long de leur jeunesse et puis ensuite tout au long de leur vie, ça forge vraiment toutes les destinées, la manière dont chacun se perçoit et dont chacun s'inscrit en fait dans une fonction dans la sphère professionnelle. Et voilà.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Isabelle Attané et Wilfried Roux dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Atlas mondial des femmes, les paradoxes de l'émancipation. Nous retrouvons nos invités Isabelle Attenay, démographe à l'INED, l'Institut national d'études démographiques et chercheuse associée à l'École des hautes études en sciences sociales et co-responsable de cet Atlas des femmes paru aux éditions Autrement, avec Wilfried Roux, sociologue et co-responsable donc de l'Atlas et de l'unité de recherche démographie, genre et société de l'INED, et Carole Brugel qui a également dirigé cet Atlas. Nous évoquions dans la fin de la première partie de l'émission la question du genre, finalement, Wilfried Roux, c'est ce que j'entends un petit peu avec ces rôles qui sont un peu préétablis entre filles et garçons dès les plus jeunes années des vies de chacun. Que vous inspire le débat qui a cours actuellement sur la question du genre? Et j'ai cette question qui pourrait permettre de poursuivre le débat, finalement, pour quelles raisons les schémas traditionnels persistent-ils de façon tellement prégnante dans nos sociétés, qu'elles soient du Nord ou qu'elles soient du Sud, Wilfried Roux?
Ce débat sur le genre, on peut le comprendre en France qu'à travers justement une évolution récente concernant en particulier l'homosexualité. Hein. C'est pas du tout le hasard si l'émergence de mouvements s'opposant à une manière de voir le genre, on va y revenir, s'inscrit dans le prolongement des manifestations contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Mais finalement, les deux questions se rejoignent, hein, la reconnaissance de l'homosexualité et ce débat sur le genre, dans la mesure où il s'agit pour les mouvements qui se sont exprimés de défendre finalement une conception de la vie privée, de la famille et plus largement de la société qui effectivement assigne aux hommes et aux femmes des rôles extrêmement prédéfinis, relativement hermétiques, un peu à contre-temps justement de ce qu'on observe depuis plusieurs dizaines d'années. Alors ces mouvements, ils sont d'un point de vue politique justement intéressants parce qu'ils sont assez révélateurs de ce que suscitent les avancées des droits et des situations des femmes, des hommes et des femmes, même plus largement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des avancées en termes législatifs, en termes sociaux, cela suscite des mouvements de réaction parce que ça suscite un peu des crispations de la part de franges de la société qui se mobilisent pour défendre des représentations très conservatrices des rôles sociaux des hommes et des femmes. Alors, c'est une inquiétude qui s'exprime, mais qui, paradoxalement, montre que les choses avancent, puisque c'est une réaction assez avancée.
Alors, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement face à des débats qui ne se rejoignent pas entre hémisphère nord, hémisphère sud sur ces questions-là, Isabelle Attenay? On a un peu l'impression, peut-être Wilfried Roux, on a un peu l'impression que finalement on débat de deux choses totalement différentes et que les priorités sont aux antipodes.
Je ne crois pas que les priorités soient aux antipodes. Alors c'est vrai que si on veut lutter pour l'égalité des sexes dans la plupart des pays du Sud, et si on veut lutter contre les inégalités entre les sexes dans les pays du Nord, on va pas s'attaquer au même problème, puisqu'effectivement, dans la plupart des pays du Nord, il y a certaines avancées qui n'ont pas encore eu lieu ou qui ne sont qu'en train de démarrer dans la plupart des pays du Sud. Donc effectivement, on n'en est pas au même stade d'évolution, mais il faut savoir que, y compris dans les pays du Sud, dans la plupart des pays du Sud, les combats féministes sont anciens, et que tous les combats féministes à travers la planète ont tous, depuis le départ, les mêmes revendications. Et effectivement, il y a cette idée qui domine les débats, c'est de vouloir faire justement sortir les femmes de ces rôles sociaux très sexués. Et effectivement, comme le disait Wilfried, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des avancées dans ces domaine-là, effectivement, ça suscite des mouvements réactionnaires qui s'inquiètent de la progression et de la tendance qui voudrait faire sortir les femmes, justement, et leur permettre d'accéder à plus d'égalité avec les hommes.
Alors, ces combats féministes qu'évoque à l'instant Isabelle Attenay, Wilfried Roux, ils sont finalement à l'origine même de toutes les avancées dans les droits des femmes. Il faut se battre pour conquérir du territoire. Les choses ne viennent pas de façon spontané. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la représentation politique des femmes? On reste très en deçà, bien évidemment, de l'égalité. Il y a des progressions. Finalement, dans des régions du monde, on s'y attend assez peu. Je pense à l'Amérique latine et aux Caraïbes. En Amérique latine, où les sociétés sont quand même, ils me pardonneront, mais très machistes.
Oui, la sphère politique, de manière générale, c'est vraiment un exemple intéressant de résistance résistance assez forte à l'évolution de l'égalité entre les femmes et les hommes, et de reproduction justement de certains de ces stéréotypes qui finalement associent la chose publique plutôt à la sphère du masculin et qui renverraient les femmes plutôt à des dimensions domestiques. On voit que ce type de stéréotypes demeure. D'ailleurs, les femmes politiques les mentionnent très régulièrement parce qu'elles les subissent au quotidien. Mais plus largement, si on s'intéresse donc à la sphère politique, il est très intéressant d'observer que les contrastes mondiaux sont très forts, mais ne recoupent pas du tout des logiques nord-sud, par exemple, puisque, comme vous l'avez mentionné, on trouve dans certains pays des situations qui finalement sont plus favorables aux femmes que dans d'autres. Alors en termes de chefs d'État pour l'Amérique du Sud, il y a un nombre important de grands pays d'Amérique du Sud qui sont présidés par des femmes, alors que c'est finalement quelque chose qui est assez rare dans d'autres parties de la planète et encore en Europe. Mais pour autant, là où il faut faire très attention lorsqu'on regarde la sphère politique, c'est qu'il est utile de la regarder dans son intégralité, parce que souvent quelques évolutions ou quelques situations qui semblent favorables cachent en fait des situations beaucoup plus complexes ou défavorables.
Vous pensez à quoi très précisément, Wilfried?
Alors par exemple, on peut observer qu'on a certes des chefs d'État qui sont des femmes de plus en plus, sans que pour autant derrière les assemblées ou les pouvoirs exécutifs dans leur intégralité soient véritablement paritaires, ou en tout cas évolue dans un sens favorable. Ou à l'inverse, on a parfois des assemblées qui sont plus favorables, avec un pouvoir exécutif qui reste à la traîne. Alors, il y a un exemple très proche de nous qui est très intéressant, c'est celui des élections qui ont eu lieu en mars en France, concernant les élections départementales, où là, on a mis un système permettant une représentation tout à fait paritaire. Donc là, on voit bien que le droit, c'est très important pour créer des situations plus favorables, que c'est un facteur vraiment d'avancer. Pour autant, derrière, lorsqu'on observe par département comment les responsabilités sont attribuées, et a fortiori les présidences de département, on s'aperçoit que le contraste est encore très très fort.
Isabelle Attané, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Wilfried Roux?
Prolonger, en tout cas, peut-être, et effectivement, parce que cette très faible représentation des femmes dans l'ensemble de la sphère politique à travers le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a des pays qui, même dans certains pays d'Asie, où c'est une situation assez paradoxale, où effectivement, on va trouver, par exemple, comme en Inde, ou comme au Bangladesh, au Pakistan, où on a eu quand même beaucoup de femmes dans les sphères de pouvoir. Et à côté de ça, la situation des femmes assez défavorable dans le reste de la société. Mais cette représentation politique, elle est importante à double titre. D'abord parce que pour l'équité en elle-même au sein de ces sphères de pouvoir, mais ce qui est important aussi, c'est ce qui se dégage de ça, c'est-à-dire qu'en fait moins les femmes sont représentées dans les sphères de pouvoir, et notamment le pouvoir politique qui est censé par définition faire avancer les droits et faire avancer un certain nombre de choses au sein de la société, et moins on trouve de femmes dans ces sphères, moins le droit va évoluer en faveur des femmes. Donc la sphère politique est importante à double titre, en fait. Voilà.
Et elle est importante sur le plan intérieur. Je veux dire par là, si on élargit un petit peu le débat, ce que l'on constate, c'est que finalement, de nombreux États rechignent à ce que des textes internationaux fixent les règles. On le voit notamment dans les enceintes onusiennes, où les textes qui posent le plus de problèmes sont ceux liés aux droits sexuels et à la santé reproductive, mais sans parler de ces aspects très, très intimes, finalement, chaque État souhaite faire avancer par lui-même les choses. Et je reviens à ce que je disais, peu d'États, finalement, se laissent ou acceptent que des règles soient fixées à l'extérieur. Vous parlez, Wilfried Roux, de confusion réelle entre la question de l'égalité et celle de la différence, pour peut-être évoquer cette difficulté à faire avancer les choses. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication de texte?
Oui, on s'aperçoit donc aujourd'hui que les choses ont quand même beaucoup évolué en termes d'égalité. En tout cas, que c'est beaucoup plus souvent un objectif politique que ça n'était. Toutefois, on continue, et peut-être même sous certaines formes plus qu'avant, de justifier des inégalités par l'idée d'une différence. C'est-à-dire qu'il y aurait finalement des différences de nature en particulier, qui fonderaient des situations inégalitaires. Ce serait le cas, par exemple, pour la politique, mais on retrouve ce type de représentation sexuée dans d'autres sphères, la famille, la sexualité, etc.
Alors, différence de nature, c'est quoi exactement, à quoi vous faites référence?
Ben, en réalité, les personnes qui sont hostiles, finalement, à ces égalités, vont mettre en avant le fait que les femmes sont naturellement plus enclines à exercer des activités dans la sphère domestique que les hommes. Donc c'est vraiment une pure rhétorique qui ne s'appuie pas sur des réalités sociales et qui convient de dépasser. C'est un des objectifs d'ailleurs de plusieurs mouvements féministes, hein, de mettre en évidence la manière dont un discours naturaliste s'inscrit vraiment à l'encontre des droits des femmes, parce que aujourd'hui, plutôt que, enfin, il y a une adhésion de façade à l'égalité qui s'accompagne souvent d'un discours, mais attention, il y a des différences, comme si finalement on ne pouvait pas atteindre l'égalité. Et finalement, ce discours de la différence vise à justifier des inégalités sur lesquelles on peut tout à fait agir. C'est le cas aussi dans la sphère professionnelle, où on peut observer des discours qui renvoient les hommes et les femmes à des sphères professionnelles très distinctes. Mais lorsqu'on regarde des statistiques sur les taux d'activité, il y a des contrastes très forts. Mais pour autant, on voit très bien qu'il y a des hommes et des femmes dans des sphères professionnelles qui sont dominées par l'autre sexe, ce qui montre bien que cette idée de nature ne fait absolument pas sens. Donc un des éléments probablement importants à combattre pour aller vers l'égalité, c'est justement celui de différences immuables dont on ne sait pas finalement très bien à quoi il renvoie, hein. C'est vraiment une argumentation à caractère politique qui constitue une entrave finalement à l'égalité.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, ce qu'on ne fait pas dans cette émission, on l'a fait précédemment et dans d'autres éditions de géopolitique, c'est parler de l'aspect religion. De toute façon, l'Atlas mondial des femmes ne se penche pas sur cette question, où on voit quand même, et c'est un constat qu'on ne peut pas, en tout cas, je ne peux pas ne pas le mentionner dans cette émission sur les femmes, le côté religieux, le côté conservatisme au niveau international a évidemment un impact très fort sur la façon dont les femmes sont considérées. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, Isabelle Attané.
Oui, effectivement, il y a un certain nombre d'exemples assez évidents selon lesquels qui montrent bien que les extrémismes religieux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit l'intégrisme catholique, que ce soit l'intégrisme musulman, que ce soit l'intégrisme juif, dans ces religions, dès lors qu'elles sont pratiquées de manière extrême et souvent surinterprétées, effectivement, ça donne lieu à en général une soumission de la femme à son mari, vraiment beaucoup plus marqué, et c'est-à-dire que ces intégrismes religieux sont en général pour le maintien de rôles traditionnels, sexués traditionnels.
Wilfried Roux.
Oui, et pour autant, il y a une certaine, au sein des religions, il y a une certaine diversité, et on trouve aussi des mouvements féministes finalement au sein de personnes très attachées à l'identité religieuse, des mouvements féministes catholiques, musulmans, ce qui montre bien que s'il y a des résistances dogmatiques très fortes des institutions, il y a aussi en leur sein des mouvements pour faire avancer les choses.
Alors, faire avancer les choses, il nous reste 5 minutes pour terminer cette émission. Qu'est-ce que l'on peut dire finalement, si on devait un peu rassembler les idées sur les avancées, sur les dégradations de la situation des femmes et des inégalités, des dégradations, voire les blocages, concrètement, à l'échelle mondiale, des avancées, il y a des blocages beaucoup aussi. Ce qu'on voit également, c'est que les inégalités entre hommes et femmes se reconfigurent, se déplacent, elles évoluent. C'est-à-dire qu'une une amélioration, je pense à la contraception, qui est un grand pas évidemment pour la femme, mais finalement crée là aussi des inégalités nouvelles avec une pression qui est davantage sur le sexe féminin que le sexe masculin, Isabelle Attané.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que partout, on constate, dans toutes les sphères qu'on a mentionnées précédemment, on constate que le curseur se déplace et que dès lors que certains progrès sont observés, en fait, ça donne lieu à de nouvelles inégalités. Donc, il y a l'exemple de la contraception, effectivement. Donc, la contraception a été quand même un outil véritablement de libération de la femme, puisqu'il lui a permis de contrôler, de décider du nombre de ses enfants et du moment où elle peut les avoir. Et du coup, ça faciliter, entre autres choses, la conciliation, l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Mais effectivement, on constate que cette contraception, et ça partout dans le monde, elle reste très majoritairement sous la responsabilité des femmes, et que, y compris, enfin, je veux dire, dans un couple, dans beaucoup de couples, il est une évidence de plus ou moins tacite, que c'est la femme qui est responsable, en fait, de la contraception conjugale, alors que l'homme, tout à fait au même titre, est responsable. Donc, il y a sans doute, Wilfried va compléter.
Wilfried.
Oui, on voit aussi cette forme de paradoxe dans les manières d'accoucher, par exemple. Une page est consacrée à l'accouchement, la page de Carole Brugeil qui a dirigé l'ouvrage avec nous, page dans laquelle elle explique que là aussi on a assisté à des évolutions très importantes dans les conditions d'accouchement, grâce en particulier à des progrès de la médecine, mais que pour autant il y a des avancées qui sont tout à fait paradoxales. Alors l'exemple le plus flagrant qu'elle met en évidence, c'est celui de la césarienne, qui permet justement de faciliter l'accouchement pour beaucoup de femmes, mais dont on voit, notamment dans certains pays du monde, qu'il peut y avoir des usages de la césarienne qui ne sont pas liés finalement à l'amélioration des conditions de l'accouchement, mais plutôt au maintien de certaines injonctions qui pèsent sur les femmes, comme celle de conserver un corps intact, entre guillemets, entre avant et après l'accouchement, ou des normes qui sont plus liées à des, finalement, on pourrait dire, des convenances de la part de la sphère médicale. Mmh. Donc finalement, cette avancée, là aussi, est un peu paradoxale, puisqu'elle s'accompagne d'usages un petit peu problématiques. De manière plus générale, on pourrait mentionner le caractère paradoxal qu'il y a dans les avancées du droit, paradoxal ou peut-être plutôt inabouti, dans la mesure où ce qui fonde en grande partie les évolutions dont on a évoqué les grandes lignes aujourd'hui est sous-tendu par des avancées du droit, mais qui parfois ne sont pas suivies d'évolutions dans les pratiques. C'est-à-dire que, alors c'est très important sur un plan politique et en termes d'affichage que le droit évolue, puisque ça crée des légitimités nouvelles. Mmh. Pour autant, on observe souvent un décalage entre ces avancées, ces déclarations égalitaires ou en tout cas des principes qui sont mis en avant par le droit et la réalité des comportements.
Donc une égalité qui est finalement toujours soumise à une certaine hypocrisie, c'est cela que j'entends peut-être pour conclure cette émission, Wilfried Roux.
Alors hypocrisie, je ne sais pas, mais en tout cas qui demeure totalement inabouti. C'est-à-dire que on est parfois en présence d'un discours justement sur l'égalité, comme quoi finalement les choses auraient avancé de telle sorte que ce serait plus un combat politique. Ce que montre l'Atlas à travers plusieurs thématiques, c'est que justement on est loin d'avoir atteint cette égalité.
Merci. C'est la fin de Géopolitique consacrée à l'Atlas mondial des femmes, les paradoxes de l'émancipation. Merci à nos invités, Isabelle Attané, démographe à l'INED, de l'Institut national d'études démographiques et chercheuse associée à l'École des hautes études en sciences sociales, et Wilfried Roux, sociologue et co-responsable de l'unité de recherche démographie, genre et société de l'INED. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.